Bonjour, ravi de vous retrouver dans Grand Bien vous fasse. Et ce matin, en partenariat avec Arte, on s'intéresse aux bienfaits de la méditation sur la santé. Qu'est-ce que la méditation telle qu'elle est pratiquée de façon laïque? Comment cette pratique ancienne permet-elle d'aller mieux, de réduire son stress, d'accompagner certaines pathologies comme la dépression? Quels sont ses bienfaits sur la santé mentale et physique prouvés par la science? La méditation convient-elle à tout le monde? Pourquoi cette pratique influe-t-elle puissamment sur notre corps et notre esprit? Corps et esprit à l'unisson pour notre plus grand bien. Nos invités ce matin, le biologiste et moine bouddhiste Mathieu Ricard, le docteur Jean-Gérard Bloch, le réalisateur Benoît Laborde, et bien sûr, comme tous les mardis, notre psy préféré, Christophe André. Bonjour Christophe.
Bonjour Ali.
Alors ce matin, vous buvez du petit lait, hein. C'est l'un des sujets de votre vie, la méditation.
C'est une matinée de bonheur qui s'annonce.
À tout à l'heure. Et si vous méditez, n'hésitez pas à nous raconter les bienfaits sur votre santé. 01 45 24 7000, grand bien vous fasse, à radiofrance.com, sans oublier notre page Facebook. Bonjour Marie-Laure Sunshine.
Bonjour Ali.
Chef du service actualité à Femme Actuelle. Alors je ne sais pas si vous méditez, mais je vais écouter en pleine conscience votre intervention en fin d'émission.
Oui, on va parler des pères solos qui peinent souvent à trouver leur juste place dans la société. Sont-ils des mères comme les autres? À méditer.
À tout à l'heure.
France Inter, grand bien vous fasse. Ali Rebi.
Un premier témoignage ce matin. Bonjour Marie-Aude. Bonjour Marie-Aude. Bienvenue dans l'émission.
Merci, bonjour à tous.
Alors vous êtes professeur de lettres dans un collège classé ZEP dans le nord de la France. Vos élèves vivent souvent dans des contextes familiaux difficiles. Qu'est-ce que vous avez mis en place dans vos classes il y a à peu près 6 ans?
Alors j'ai commencé la relaxation et ensuite la méditation. Donc chaque journée commence par de la méditation maintenant. Donc une fois par semaine, mes classes ont le droit à de la méditation.
Alors il y a un an, vous tombez sur un article qui évoque une école canadienne qui remplace les heures de colle par de la méditation.
Oui, c'est fabuleux. Oui, tout à fait. Alors, je me suis intéressée à cela et je me suis demandé pourquoi on s'évertuait à mettre des heures de colle à certains élèves avec lesquels on n'obtient finalement aucun changement. Donc, ce sont des élèves violents physiquement ou verbalement. Et j'ai proposé de les prendre en charge une fois par semaine à la place d'une heure de colle en méditation.
Alors qu'est-ce que vous avez constaté de façon empirique sur le bien-être, sur la santé de ces enfants?
Alors ces enfants, ces élèves, ce sont des préadolescents et des préadolescents et des ados. Ils sont mélangés aux autres pour ne pas leur coller une étiquette, pour ne pas stigmatiser. Et suite aux séances de méditation, je les trouve bien mieux. On travaille donc la santé mentale, le bien-être, le développement personnel. La gestion des émotions surtout, parce que ce sont des adolescents avec beaucoup de colère en eux. Il faut apprendre à reconnaître les émotions, à les gérer, voire à les anticiper. Et surtout, on travaille aussi la bienveillance envers eux et envers les autres. C'est très important qu'ils apprennent à vivre dans une micro-société qui est le collège avant d'être propulsés dans cette grande société impitoyable qui est notre vie en fait.
Bonjour Mathieu Ricard.
Oui.
Vous êtes docteur en génétique cellulaire, moine tibétain. Vous venez de publier un demi-siècle dans l'Himalaya aux éditions de La Martinière. Et vous êtes l'un des promoteurs de la méditation en France avec notamment Christophe André. Que vous inspire ce témoignage?
Je suis tout à fait réconforté parce que ça commence à venir en France comme ça. Parce que, par exemple, notre ami le neurobiologiste Richard Davidson a mis au point un programme qu'il appelle le curriculum de la bienveillance qui dure 10 semaines. Alors là, c'est 40 minutes. 3 fois par semaine. Les enfants adorent ça. Et il y a des résultats étonnants, justement, sur les diminutions des conflits, la meilleure gestion des émotions, reconnaître nos propres émotions, parce que si on ne les identifie pas correctement chez nous-mêmes, il est difficile d'identifier chez autrui. Donc, on fait des erreurs, donc il y a des conflits. Et des enfants aussi qui avaient des phobies, par exemple, de prendre des ascenseurs, des choses comme ça. Et il y a beaucoup d'efforts dans différents pays du monde. Vous parliez du Canada. En Hollande aussi, maintenant, le gouvernement subventionne les personnes pour devenir des formateurs dans les écoles pour faire des séances de méditation. Et je suggérerais à notre ami professeur d'en faire 5 minutes tous les jours, parce que la qualité de l'attention, les rapports entre les élèves et avec le professeur sont manifestement améliorés par c'est très simple, hein, c'est un recentrement sur soi-même, laisser un peu reposer les émotions, focaliser son attention, ouvrir un peu son esprit, et ça n'apporte que des bienfaits.
Christophe André, sur le témoignage de Marie-Aude.
Oui, oui, très, très réconfortant. Moi, j'adore lorsqu'on apprend que des enseignants se préoccupent de l'épanouissement psychologique, du travail sur la bienveillance, et on peut signaler que tout un réseau d'enseignants existe au travers de nombreuses écoles françaises qui s'est regroupée dans une association qui s'appelle l'AME. On peut aller voir sur internet leur site, c'est Association pour la méditation à l'école ou dans l'éducation, je ne me souviens plus. Donc c'est vraiment quelque chose qui prend naissance sur le terrain actuellement.
Christophe André, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est exactement la méditation et peut-être ce qu'elle n'est pas? J'entends parfois dire que méditer c'est se concentrer, méditer c'est se relaxer, méditer c'est rester zen. Ce
oui.
sont des clichés
ou... Alors, c'est à la fois des clichés et des conséquences possibles de l'état méditatif. La méditation, comme le définit d'ailleurs très bien Mathieu, c'est un entraînement de l'esprit. Au fond, la méditation est au cerveau, ce que l'activité physique est au corps. C'est une manière de s'intéresser au fonctionnement de son esprit, de ses émotions, de son équilibre intérieur. Et donc, c'est une sorte de gymnastique. Alors, elle obéit à tout un tas de codes variés. Quand on dit la méditation, en fait, il y a des tas d'écoles extrêmement différentes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à dire la méditation pour désigner un type précis de méditation qui s'appelle
pleine conscience.
La pleine conscience, qui est finalement le noyau dur de toutes les approches méditatives. On apprend à poser son esprit dans l'instant, à observer l'état de son corps, de ses émotions, de ses pensées. Et cette approche de pleine conscience est à la fois une méditation, une école de méditation qui peut se suffire à elle-même, qui entraîne de nombreux bienfaits. C'est aussi une porte d'entrée vers d'autres usages de la méditation, le travail sur la bienveillance, etc.
Et ce qui est difficile à faire comprendre, c'est que méditer, c'est ne rien faire, Mathieu Ricard. C'est difficile à faire comprendre.
Ne rien faire, mais bien. Non, en fait, rien faire. Ça, évidemment, vous n'êtes pas à faire de la gymnastique. Encore que, on peut méditer en marchant. Beaucoup de bouddhistes le font. Méditer, c'est justement entraîner son esprit à la présence attentive, à la bienveillance, à savoir avoir venir les émotions avant qu'elles vous aient complètement envahi. Donc idéalement, on peut faire ça en faisant du vélo, dans un embouteillage, n'importe comment. C'est vrai qu'au début, c'est un peu, vous n'avez pas l'habitude de faire ça. C'est comme si on vous apprenait à naviguer un jour de tempête. C'est pas le moment. Faut naviguer commencer avec une petite brise un jour de beau temps. Donc dans ce sens-là, ne pas être pris dans des activités frénétiques, ça aide. Donc au départ, ne rien faire peut-être physiquement au départ, mais en tout cas, certainement, on fait quelque chose avec notre esprit puisqu'on essaie de mieux le connaître. Alors, ça ne veut pas forcément dire d'avoir des exercices très intenses de concentration. Ça peut simplement regarder les pensées comme elles surgissent. Mais ça peut être aussi cultiver des qualités comme la bienveillance.
De façon un peu naïve, Christophe André, c'est un peu comme regarder passer les nuages. On regarde passer ses pensées.
Oui, c'est toute la différence entre réfléchir et regarder son cerveau réfléchir, ruminer, ressasser. Ce n'est pas tout à fait pareil. Là, à un moment, on est dans les pensées, dans les émotions, on est dans le torrent. Et à un autre, on est sur le bord et on regarde ce qui se passe dans notre cerveau.
Bonjour Jean-Gérard Bloch.
Bonjour Ali.
Vous êtes médecin, rhumatologue et responsable d'un diplôme universitaire qui mêle médecine, méditation et neurosciences. Et vous avez également initié un module de méditation de 28 heures à destination des 3e années à la faculté de médecine de Strasbourg. Votre regard sur Marie-Aude qu'on vient d'entendre tout à l'heure.
Marie-Aude, c'est formidable parce qu'effectivement, si la méditation peut entrer dès les premiers temps d'apprentissage, dès l'école, c'est rééquilibrer les aspects probablement de compétition et de coopération plutôt que de favoriser uniquement la compétition chez les enfants. Et puis, parler de méditation, c'est peut-être ambitieux, mais en tous les cas, parler d'apprentissage, d'entraînement attentionnel et puis d'éducation émotionnelle, comme le disait très bien Mathieu, c'est vraiment essentiel le plus tôt possible.
Merci Marie-Aude d'avoir témoigné ce matin. Bienvenue Marie-Odile.
Oui, après Marie-Aude, c'est Marie-Odile.
Vous avez tout est préparé dans cette émission, tout est planifié. Voilà. Vous voyez. Vous appelez
donc,
d'où Marie-Odile?
Moi j'interviens dans un lycée, un gros lycée polyvalent dans le sud des Landes, à Dax, qui a fait un projet bien-être de l'élève et bien-être du prof. Et dans ce cadre-là, il y a plusieurs ateliers, dont un atelier méditation auquel j'appartiens. Donc je fais une méditation guidée. Et les élèves, pendant une heure, sont là à être complètement relaxés, à lâcher prise, à écouter une histoire que je leur raconte en musique. Je pars des centres d'énergie parce que je suis une énergéticienne de formation. Et c'est vrai que les résultats, j'ai une expérience maintenant de 6 ans en collège et maintenant aujourd'hui en lycée.
Et c'est vrai qu'on a fait des petits sondages et effectivement, sur la concentration de l'élève, sur l'endormissement, il y a vraiment des progrès. Les élèves arrivent en disant « Madame, j'ai lâché mon portable cette nuit, je m'endors mieux, j'apprends à respirer ». Enfin, c'est que du bonheur.
Bonjour Benoît Laborde.
Bonjour.
Le témoignage de Marie-Odile est intéressant. Vous qui avez réalisé le documentaire Les étonnantes vertus de la méditation qui sera diffusé samedi à 22h40 sur Arte, vous avez donc enquêté sur les éventuels bienfaits de la méditation sur la santé. Et là on voit, c'est empirique hein, l'exemple de Marie-Odile, mais vous, vous êtes allé voir des scientifiques, des chercheurs qui travaillent sur cette pratique psychocorporelle.
Oui, tout à fait. On s'est promené un peu partout en Europe, essentiellement en France, puis aussi aux États-Unis, où cette pratique est enseignée, étudiée aussi depuis plus longtemps que chez nous. Et on a fait un peu comme ça un tour du monde de ces scientifiques dans différentes disciplines. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il n'y a pas que des psychologues ou des psychiatres, mais il y a aujourd'hui énormément d'autres disciplines, parfois inattendues, qui s'intéressent aux vertus thérapeutique de la méditation.
Inattendu, par exemple ?
Eh bien, la biologie, Mathieu se présentait comme biologiste, Mathieu Ricard. A priori, on a du mal un peu à croire que les effets de la méditation puissent être mesurés dans les cellules, et c'est pourtant bien le cas. Je crois que parmi les courants de recherche qui aujourd'hui sont les plus dynamiques et les plus forts, et il y a beaucoup de génétique ou d'épigénétique.
Et c'est ce qui m'a vraiment le plus étonné dans votre documentaire. Hier, un auditeur nous a écrit au médiateur pour dénoncer le fait que nous évoquions l'entrée des médecines complémentaires à l'hôpital public et que nous faisions par conséquent le lit de la charlatanerie, ce qui est évidemment faux. Docteur Jean-Gérard Bloch, peut-on dire que les effets de la méditation de pleine conscience sur la santé sont une charlatanerie sans fondement scientifique ? Quand on lit évidemment toute la recherche scientifique sur le sujet ou quand on regarde le documentaire de Benoît Laborde, la réponse est...
Oui, je crois qu'il faut, regarder peut-être ça d'une vue assez large sur l'évolution actuelle de la médecine qui permet de parler de médecine intégrative du corps-esprit. On est en France, on est dans une dichotomie et une séparation du corps et de l'esprit. Les apports de la méditation aujourd'hui, qui croisent des disciplines effectivement comme la biologie du gène, mais aussi l'imagerie cérébrale, montrent qu'il ne s'agit pas de deux entités séparées, mais qu'elles procèdent d'une unité complète. Et donc les médecines complémentaires ont leur place. Il y a beaucoup de choses qui se développent aujourd'hui sur les médecines complémentaires. Je voudrais juste dire qu'à Strasbourg, on est peut-être aussi en pointe là-dessus avec le doyen Jean Sibilia qui a proposé de développer le regard sur les médecines complémentaires de façon scientifique à l'hôpital avec une place qui leur est faite.
Christophe André.
Oui, récemment j'intervenais devant des rhumatologues donc, qui n'étaient pas forcément ouverts au départ à la méditation. Et après mon topo, beaucoup sont venus me voir en me disant « Mais c'est vrai que c'est très important, nous on voit très bien qu'à maladie égale, finalement à difficulté égale, l'état psychologique de nos patients peut pousser l'évolution de la maladie de manière très très différente vers des évolutions très accélérées ou des évolutions très ralenties.
Mathieu Ricard, pendant longtemps, la médecine occidentale a nié le lien entre le mental et le physique. Spinoza nous rappelle que l'esprit et le corps sont une seule et même chose exprimée de deux façons différentes. Corps et esprit, deux facettes d'une même réalité.
De toute façon, quand on sait que le cerveau finalement règle tout, tous les processus hormonaux, toutes les réactions du corps sont quand même plus ou moins programmés et décidés dans le cerveau. Et bien quand vous parliez de charlatanisme, certes, il y a une bonne dose de charlatanisme dans tous les domaines de nos activités humaines, mais quand vous voyez qu'aujourd'hui vous avez environ 400 publications dans des revues sérieuses, c'est-à-dire des revues scientifiques, hein, c'est pas les potins de la Comère ou l'almanach du chasseur français, sur les effets de la méditation étudiés cliniquement. Et un des premiers papiers qu'on avait publié avec Richard Davidson a été un des plus téléchargés cette année-là, en 2003, dans les comptes rendus de l'Académie des sciences américaines.
Bonjour Aude, après Marie-Odile. Aude, bonjour. Vous appelez d'où Aude ?
Oui, je vous appelle d'Aix-en-Provence.
Bienvenue, alors dites-nous tout.
Alors voilà, moi j'ai découvert la méditation des mains. C'est une méditation coréenne que j'ai découvert au cours d'un voyage où je travaillais dans une compagnie théâtre de rue. Du coup, on a fait un spectacle en Corée. Et du coup, je suis allée découvrir cette méditation qui fait partie d'un art martial qui s'appelle le Son Mudo.
D'accord.
Et j'ai découvert cette méditation. Et puis en rentrant en France, j'ai trouvé un professeur. J'ai pu continuer à pratiquer. Et ensuite, j'ai eu des ennuis très graves de santé. Donc, je me suis fait opérer du cerveau à Paris, à la Salpêtrière. Et j'ai continué la méditation des mains pour me préparer à cette opération. Et j'ai continué aussi à l'hôpital à méditer tous les jours dans ma chambre où les infirmières rentrent un petit peu tout le temps. Il y a du bruit, il y a beaucoup de machines, etc. La méditation des mains, en fait, on est guidé par des mouvements des mains. C'est un peu comme du Qigong, mais en position de yogi. Et du coup, le fait d'avoir le guide avec les mains, ça nous aide vraiment à être vraiment dans l'attention de ces mouvements et du coup à faire fi de ce qui se passe autour et des infirmières qui rentrent dans la chambre et tout ça. Donc j'ai pratiqué ça tous les jours à l'hôpital et après depuis je continue depuis 2 ans je pratique beaucoup. Et en fait, je pense que ça m'a vraiment, ça m'a sauvée. Enfin, clairement, ça m'a sauvée. Je pense que je serais partie. Ouais, c'était très très dur. Et du coup, la méditation des mains, ça m'a vraiment apaisée. J'ai trouvé la force intérieure pour passer au-dessus de tout ça. Et je me suis guérie. Je vais très bien aujourd'hui.
Merci.
Quoi.
Merci beaucoup Aude. Comme Aude, vous pouvez, merci pour votre témoignage, vous pouvez nous appeler et nous dire si vous méditez, quels sont les bienfaits que vous en retirez sur votre santé physique ou mentale. 01 45 24 7000, grand bien vous fasse, @radiofrance.com. Sans oublier notre page Facebook, cette émission est préparée par Alexia Rivière et Claire Destacan et par notre journaliste Théo Denmat avec l'aide d'Antoine Vandeville et c'est réalisé par Eric Lenné.
Passed along the way. Well, I got down on my knees and I pretend to pray.
I pretend to pray.
You hear the preacher like the call. He knows I'm gonna stay.
Les mamas et les papas, California Dream, et ça rappelle plein de choses à Mathieu Ricard et Christophe André.
Concentrez-vous sur votre respiration.
Grand bien vous fasse.
Et à quoi est-ce qu'on joue ici?
Je vous laisse à vos méditations.
Et on se paie
sur France Inter.
10h26 et ce matin en partenariat avec Arte, on s'intéresse aux bienfaits de la méditation sur notre santé.
Pendant les 52 minutes qui vont suivre, cette jeune femme va faire quelque chose d'exceptionnel dans notre monde agité et bruyant. Rien. Absolument rien. Oui, cette jeune femme commence une séance de méditation. Comme elle, ils sont de plus en plus nombreux dans le monde à fermer les yeux quelques minutes par jour pour mieux dompter le flot de leurs pensées.
Un extrait de l'excellent doc diffusé samedi soir sur Arte, les étonnantes vertus de la méditation. Christophe André, je rappelle que vous êtes psychiatre donc à l'hôpital Sainte-Anne. Méditer, c'est avant tout une pratique corporelle.
Oui, paradoxalement, on a l'impression que méditer, au fond, ça ressemble à quelque chose comme réfléchir, assis, les yeux fermés, mais c'est pas du tout ça. L'un des premiers mouvements des séances de méditation, c'est d'abord de se relier à soi et à son corps, à ses sensations, à sa respiration. On s'ancre dans le réel, on s'ancre dans le corps, d'abord parce que ça permet de poser son attention, mais aussi parce que le corps fait partie intégrante de ce que nous sommes. Et comme vous le disiez avec la citation de Spinoza, le corps et l'esprit sont deux entités indissociable.
Jean-Gérard Bloch, je rappelle que vous êtes rhumatologue.
Oui, rhumatologue, le corps nous parle à deux titres. Les patients qu'on voit en rhumatologie ont dans leur corps des douleurs et source de beaucoup de souffrance, et la façon dont ils se relient à cette expérience vécue peut être profondément modifiée par les pratiques méditatives, quelles qu'elles soient. Et le corps est aussi le lieu où le système immunologique est présent, qui définit une notion du soi, qui aujourd'hui, avec les sciences, permet de revisiter cette relation à soi-même. Le corps est peut-être le début et la fin de la pratique méditative, qu'on voit parfois trop comme quelque chose qui est une pratique de l'esprit, comme si c'était encore une fois isolé, les deux étant unifiés.
Benoît Laborde, qui avait réalisé le doc « Les étonnantes vertus de la méditation ».
Oui, cette question du rapport au corps, c'est une des choses qui revient et qui est revenue le plus souvent dans tous les entretiens qu'on a pu avoir, tant avec les spécialistes et les scientifiques qu'avec les pratiquants, les méditants, et particulièrement à l'hôpital. Aude parlait à l'instant depuis de son expérience à la Pitié-Salpêtrière. Il y a aussi aujourd'hui à la Pitié-Salpêtrière quelqu'un qui s'appelle le docteur Corinne Isnerbanis et qui pratique, qui accompagne plus exactement ses patients du service de néphrologie. Donc là, on est dans la question des reins, souvent avec des maladies chroniques très lourdes, très, très handicapante, et donc qui accompagne un certain nombre de malades et de patients avec la méditation. Il ne s'agit pas du tout, on le redira peut-être un petit peu, de remplacer quoi que ce soit,
non,
de remplacer des médicaments, mais d'accompagner et souvent d'augmenter l'efficacité de certains médicaments, c'est vrai.
Mathieu Ricard.
Alors dans le domaine médical, c'est vrai que les gens vont affaire à un corps qui va pas bien, qui n'est pas en bonne santé, mais il y a aussi des problèmes de dépression et de santé mentale, ce que la méditation a un effet. Alors en Orient, c'est vrai que le corps a un rôle important, il faut se mettre dans une posture équilibrée, si on s'avachit sur un canapé, on va faire une sieste plutôt qu'une méditation, ça joue un rôle essentiel. Ceci dit, quand même, le but ultime, c'est de changer la façon dont on fait l'expérience du monde, y compris de nos sensations et de notre corps. Et on a affaire à notre esprit du matin au soir. Et en gros, il peut être notre meilleur ami comme notre pire ennemi. Et donc, si nous changeons la façon dont nous traduisons en bien-être ou en mal-être les circonstances extérieures, y compris les signaux qui viennent de notre corps, ça change la façon dont nous faisons l'expérience en général de l'existence.
Mathieu Ricard, est-ce que ma posture est bonne ?
Excellent.
Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Bienvenue, vous appelez d'où Emmanuel ?
De Lyon.
Alors, dites-nous tout.
Eh bien, en fait, j'ai 59 ans aujourd'hui, et après des années où j'ai cherché en psychothérapie comment faire pour être heureuse, je suis venue au yoga il y a 10-12 ans, et le yoga m'a amenée à la méditation. Aujourd'hui, la méditation me sert à éviter les pièges du mental et à aller chercher les réponses à mes questions à travers mes sensations, c'est-à-dire que j'ai reconnecté mon corps, justement, ce dont vous parliez à l'instant, à ce qui se passe aujourd'hui dans ma vie. Et c'est plutôt que d'aller chercher ma réponse dans un cerveau qui dirait oui, non, tu dois, il faut, machin. Je vais plutôt chercher à l'intérieur de moi, dans mon corps, dans des sensations, ce qui est juste ou pas. Et parfois, la réponse, c'est je ne sais pas. Et savoir accepter qu'on n'a pas tout le temps des réponses et de savoir attendre le bon moment. Et la réponse, elle vient effectivement par des sensations. Et la méditation m'aide à éviter les pièges du mental.
C'est quoi les pièges du mental, Emmanuel ?
C'est le fait d'avoir un cerveau qui cavale, d'avoir une espèce certain... à travers les livres de Christophe André ou les différents ouvrages de ces messieurs que j'ai largement lus, cette petite tête pensante, cet autre soi-même auquel on s'identifie parfois, mais qui est un piège. Et aller chercher en revanche l'esprit, cette espèce de clairvoyance qu'apporte la méditation, sur une autre façon de voir le monde, justement.
Mathieu Ricard.
Alors, on sait par exemple que la dépression s'accompagne et est précédée par des ruminations excessives. C'est-à-dire, on n'arrête pas de ruminer le passé, d'anticiper avec angoisse et anxiété l'avenir, et on devient paralysé simplement par l'hyperactivité, comme un de mes amis disait, le blabla des neurones.
Christophe André.
Oui, oui, et ce blabla des neurones, on l'a assez bien localisé. Philippe Fossati, qui est chercheur à la Salpêtrière, a montré effectivement que dans le cerveau des déprimés, les zones concernant la conscience de soi étaient suractivées, mais en association avec les zones concernant les contenus verbaux. Donc effectivement, l'idée de la pleine conscience appliquée aux personnes qui souffrent de ces ruminations anxieuses ou dépressives, c'est d'élargir leur attention à autre chose qu'à leur pensée, qui les font tourner en rond, comme dans une lessiveuse.
Alors à l'hôpital Sainte-Anne, Christophe André, la méditation accompagne les traitements traditionnels de la dépression.
Oui, oui, à Sainte-Anne, nous faisons ça depuis 2004 et il n'est pas question de remplacer les prises en charge traditionnelles, psychothérapiques ou médicamenteuses par la méditation, mais on s'aperçoit qu'apprendre à nos patients à méditer, d'abord, leur donne de nouveaux outils pour lutter contre anxiété et dépression et surtout est une aide très efficace pour la prévention des rechutes, pour ne pas replonger toute leur vie durant.
Merci beaucoup Emmanuel de nous avoir appelés.
Pour commencer notre exercice de pleine conscience, vous allez ouvrir votre main, je vais vous mettre ce petit truc, et juste vous, pour l'instant, faites rien, vous le regardez.
Un petit truc qui n'a peut-être l'air de rien comme ça, mais ce grain de raisin aide en fait les patients dépressifs à sortir de leurs idées noires et morbides. C'est un moyen étonnamment simple de focaliser ses pensées sur l'instant présent.
Découvrant sa texture, donc le presser un peu entre le pouce et l'index. Et puis, lentement, on va l'amener tout près de l'oreille. Et on va le presser un peu, essayer d'écouter le son qu'il produit à notre oreille. Et puis, délicatement, on va l'amener de l'oreille aux narines. Et maintenant, doucement, on le descend et on le met dans la bouche, sur la langue. Ce sera toujours le premier pas de la pleine conscience, c'est de voir quand notre esprit, notre mental, nous embarque ailleurs. Chez certaines personnes, ce grain de raisin n'est pas agréable. Chez d'autres, c'est plutôt des commentaires ou de jugements, pourquoi il nous fait faire cet exercice. Et c'est de venir accueillir et prendre en compte tout ça, toutes ces pensées qui viennent nous mettre en dehors de l'exercice. Et l'idée, c'est pas du tout de faire abstraction de ça, mais c'est de en prendre conscience, et toujours pour nous entraîner à en revenir au moment présent et à l'exercice tel qu'il est demandé.
Extrait du documentaire de Benoît Laborde. Cette histoire de raisin sec est issue d'un protocole médical très précis, issu du Centre de réduction du stress à la faculté de médecine du célèbre MIT, l'Institut technologique du Massachusetts, Benoît Laborde.
Oui, ce grain de raisin, c'est une des techniques qu'a mis au point John Kabat-Zinn, qui est celui qui a, d'une certaine façon, inventé la méditation laïque telle qu'on la connaît et la pratique beaucoup aujourd'hui.
Mindfulness.
Mindfulness, pour les intimes, et qui est aussi cette forme de méditation qu'on étudie le plus scientifiquement, voilà, parce qu'elle est laïque, ça, c'est une de ses grandes vertus. Et John Kabat-Zinn a mis au point différents outils pour adapter les traditions orientales au public occidental, parmi lesquels cette technique du grain de raisin qu'on pratique beaucoup à Sainte-Anne et qui est une porte d'entrée très commode et déroutante et efficace pour entrer dans la pleine conscience.
Jean-Gérard Bloch, qu'ont montré les études de John Kabat-Zinn sur la réduction du stress ou la prévention de la rechute de la dépression?
Alors, John Kabat-Zinn a vraiment fait un programme que lui appelle un programme basé sur la pleine conscience, considérant que la pleine conscience est effectivement beaucoup plus vaste et que c'est un champ de connaissances important. Il s'agit de quoi à propos de tout ça? Ce sont des sciences d'exploration de l'expérience vécue. Et ce qui est proposé aux patients très concrètement, au travers de ce programme et d'autres, c'est lorsqu'il est confronté à des douleurs, de voir comment il se relie à cette expérience et en quoi cette information douloureuse est transformée en souffrance. Et c'est souvent une occasion extraordinaire de se rendre compte que les travaux scientifiques l'ont montré, il y a une anticipation sur la douleur, il y a une interprétation cognitive et émotionnelle qui fait qu'on pense des choses à propos de ce qu'on est en train de vivre, qu'on a des réactions émotionnelles personnel, que tout ça est automatique, involontaire, et qu'en ayant un regard bienveillant, pas dans une lutte, mais simplement se tournant vers l'expérience telle qu'elle est vécue, grâce à la pratique de la méditation et de la pleine conscience, on peut apprendre à développer ce regard bienveillant à l'égard de ce qui est là et transformer l'expérience vécue.
Mathieu Ricard, il faut rappeler que le stress a un effet, peut avoir un effet délétère sur notre organisme. Par quel mécanisme la méditation permet-elle de réduire le stress? Les chercheurs ont montré, par exemple, qu'une chute du cortisol, l'hormone du stress, chez les méditants réguliers.
Alors d'abord, le stress, ça peut être très bon. Si
bien
vous êtes poursuivi par un rhinocéros, vous avez intérêt à mobiliser toutes vos énergies. Mais si vous êtes constamment dans cet état d'esprit, c'est mauvais pour tout. Ça détruit vos neurones, votre système immunitaire, etc. Donc, en bref, qu'est-ce que vous...
Comment la méditation permet-elle de réduire le stress, le mauvais stress?
Oui, ben, alors disons que le stress, qu'est-ce que c'est? Votre paysage mental est rempli par une forme d'anxiété. Christophe et moi, on est souvent sujet à ça quand on va à l'aéroport, ce qui est mon cas aujourd'hui. Donc, si vous voulez...
On en apprend des choses.
Si vous commencez à regarder le stress avec l'œil de la pleine conscience, ce qui est conscient du stress n'est pas stressé, il est conscient. Et on observe que si on fait ça sur l'espace de 10 minutes, cet espace de pleine conscience augmente et le stress perd sa force, sa présence, il devient presque comme du carton-pâte et du coup, il n'a plus ce pouvoir oppressant sur votre manière d'être.
Allez, il est temps de retrouver les choses vues de Christophe André qui adore l'avion.
Choses vues.
Je suis votre thérapeute.
Christophe André.
Alors Christophe André, notre sujet du jour vous rappelle des jours heureux.
Oui, oui, beaucoup de souvenirs. C'est drôle, tous les souvenirs que j'ai à propos de la méditation sont des souvenirs heureux. Alors, ma première retraite, par exemple, dans un monastère bénédictin, il y avait un moine dans la chambre à côté de moi qui ronflait tellement fort chaque nuit que les cloisons en vibraient. Alors, sur le moment, ça me cassait les pieds, mais aujourd'hui, ça m'amuse beaucoup d'y ressonger. Les séances de printemps avec nos patients de Sainte-Anne dans les jardins de l'hôpital, pieds nus, dans l'herbe, à écouter en pleine conscience la rumeur de la ville tout autour de nous et cet étrange sentiment de fraternité universelle qui nous relie alors les uns les autres, mes larmes sereines lors de la sortie d'une retraite silencieuse de plusieurs jours, l'émerveillement de pouvoir à nouveau parler, dialoguer. Bref, je suis émerveillé réellement par ce paradoxe des pratiques méditatives. Comment une démarche aussi simple, s'asseoir, observer le fonctionnement de son esprit et accueillir le monde en soi, peut-elle avoir des conséquences aussi puissantes? Comment ce détour par notre corps, cette attention prêtée au mouvement de nos pensées et ce voyage intérieur immobile peuvent avoir un tel pouvoir de transformation, nous aider à mieux affronter nos souffrances, à mieux dépasser nos incohérences et déclencher en nous, régulièrement, d'aussi bonnes vibrations? I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Ooh, I'm picking up good vibrations. She's giving me excitations. She's giving me good vibrations. She's giving me excitations. She's giving me good vibrations.
Ça va me faire plaisir, hein, Christophe André.
Voilà, je savais que je vous provoquerais des bonnes vibrations à vous aussi. Alors, tout ça, c'est d'autant plus étonnant que lorsqu'on apprend à méditer, on reçoit dès le début un enseignement à la fois important et déconcertant. Commencer par ne poursuivre aucun objectif et par lâcher ses attentes. Ne pas chercher à être cool, zen, détendu. Ne pas chercher à faire le vide ou à l'éviter dans sa tête. Se contenter d'être là, présent, à observer les mouvements de son souffle, à ressentir tout ce qui se passe dans son corps, à écouter la rumeur du monde autour de nous, à laisser filer ses pensées sans se laisser aspirer par elles. Cette démarche, qui consiste à établir une qualité de présence intense et désintéressée, elle est tellement inhabituelle qu'elle nous ouvre en fait des horizons insoupçonnés. Alors on me demande souvent si j'en ai pas marre de méditer. Bon, c'est quand même un peu toujours la même chose, me dit-on. Tu t'assieds sur ton banc, tu fermes les yeux, tu bouges pas pendant 20 minutes, c'est un peu barbant, non ? Ben non, c'est pas barbant. J'ai même l'impression que ce n'est jamais barbant. C'est un peu comme aller marcher dans la nature ou randonner en montagne. On a beau l'avoir fait des dizaines ou des dizaines de fois, on ne s'en lasse pas. Parce que ce n'est jamais exactement la même chose. Chaque balade est différente selon la saison, l'heure du jour, le ciel qu'il fait, l'endroit où l'on marche, l'état dans lequel on est. Et chaque méditation est différente. Nourrie par tout ce que nous sommes en train de vivre et par tout ce qui se passe autour de nous. Quand on se balade, on ne marche pas seulement pour atteindre une destination. destination particulière, mais aussi pour le plaisir de marcher. Et quand on médite en pleine conscience, c'est pareil. On ne cherche pas à atteindre un état quelconque, mais à se sentir vivant, présent, conscient. Tout commence par ça, et à partir de ça, tout peut advenir. Et vous, cher Ali, grand marcheur devant l'Éternel, est-ce que ça vous arrive de vous balader en pleine conscience, sans autre but que le plaisir de vous sentir en vie?
Eh bien oui, Christophe, de plus en plus. J'avais plutôt tendance à marcher en écoutant de la musique ou des podcasts, et de plus en plus, je marche silencieusement à l'écoute de mes sensations corporelles et de mes pensées qui filent. Voilà, c'est vrai que ça change tout de marcher en méditant. Et je pense que Colette, qui est avec nous au téléphone, pense peut-être la même chose que moi sur les bienfaits de la marche méditative.
Voilà, voilà. Bienvenue. C'est ça. Et bien, moi, c'était la question que je posais parce que je prends mon chien, puis je vais marcher pendant 30 minutes le matin. Alors, comme je viens d'entendre, il peut faire soleil, il peut pleuvoir même, bon, ça n'a pas d'importance. Et je m'aperçois que je ne suis plus là. Il y a même des fois des gens que je croise, ils me disent, ben, bon, vous en croisez, vous ne nous avez pas dit bonjour parce que j'étais ailleurs. Voilà. Et je me demandais si c'était de la méditation que de faire cela.
Christophe André.
Oui, la méditation, c'est beaucoup de choses. On a vu que c'était beaucoup de techniques, mais c'est aussi beaucoup de pratiques. On peut méditer assis, immobile, les yeux fermés. On peut méditer en épluchant des carottes. On peut être... Alors, c'est la méditation de pleine conscience. Méditer en marchant, méditer lors d'une réunion. Alors, on ne médite pas en s'extrayant de la réunion, mais on est vraiment attentif à ce qui se passe. On n'est pas dans ses pensées, dans ses projets, dans la préparation des réponses. On est juste dans la présence à ce qui est en train de se passer, ce que nous sommes en train de vivre.
Mathieu Ricard.
Oui, donc la méditation, ce n'est pas un rêve éveillé, disons. Donc être trop perdu dans ses pensées, trop ailleurs, ça pourrait voir si on ne peut pas améliorer ça.
Merci
en fait,
beaucoup.
C'est une grande lucidité.
Merci beaucoup, Colette, de nous avoir appelé. Mathieu Ricard, vous en avez marre parfois de méditer?
Oh ben non, moi je rêve que d'une chose, c'est de partir dans mon ermitage devant l'Himalaya et de continuer toute la journée au lieu de faire le clown à droite à gauche.
Vous avez la ligne, hein. Vous devez faire énormément de sport, non?
Grand bien vous fasse.
Non, juste un peu de méditation. Mais j'ai un bon transit.
Sur France Inter.
Allez, si vous méditez, n'hésitez pas à nous raconter les bienfaits sur votre santé. 01 45 24 7000. Grand bien vous fasse à radiofrance.com. Sans oublier notre page Facebook. Alors Mathieu Ricard, pouvez-vous nous parler des expériences dont vous avez été l'objet? Je pense aux recherches menées par, vous l'avez cité tout à l'heure, Richard Davidson et Antoine Lutz de l'Université du Wisconsin. Or, ces deux chercheurs ont branché 256 capteurs sur votre crâne. Et qu'a montré cette expérience?
S'il n'avait fait que ça encore, j'ai dû passer une centaine d'heures dans des IRM, ce qui est encore plus contraignant parce que vous êtes, il fait froid, vous êtes assis dans le noir, vous n'êtes pas assis, vous êtes couché, et c'est à l'étroit, donc ça fait boum, boum, boum tout le temps, donc ce n'est pas idéal pour méditer. Et puis Antoine Luce maintenant est à l'INSERM à Lyon d'ailleurs, et puis j'ai travaillé aussi beaucoup avec Tania Singer qui travaille sur l'empathie et la compassion. Alors ce que cela a montré, c'est quelque chose qu'on a découvert en neurosciences dans les 30 dernières années, c'est qu'à tout âge, vous pouvez changer. Contrairement à ce qu'on pensait auparavant, que quand vous étiez adulte, le cerveau ne changeait plus parce qu'il était trop complexe. Ce qu'on appelle la neuroplasticité, c'est la faculté que le cerveau a de changer à la suite d'être exposé à une situation nouvelle, notamment un entraînement. Si vous apprenez à jongler, votre cerveau change. Si vous apprenez à chanter, votre cerveau change. Et si vous apprenez à cultiver la bienveillance, votre cerveau va changer. Et assez rapidement, dans l'espace d'un mois, ça commence. Ça se renforce au fil des mois et des années.
Alors, des études menées par Sarah Lazar à l'hôpital général du Massachusetts montre que la méditation modifiait la structure même du cerveau. On assiste par exemple à l'épaississement du tissu cérébral du cortex préfrontal gauche ou encore à un retrécissement de l'amygdale, une partie du cerveau qui déclenche des émotions fortes comme la peur. Jean-Gérard Bloch.
Oui, c'est extraordinaire comme ces connaissances récentes sur le cerveau, mais aussi sur le stress, sont éclairées par les connaissances ancestrales de l'exploration méditative qu'ont fait les traditions orientales. Et le croisement de ces deux courants est intéressant. Le stress est un bon exemple aussi de ce qu'on connaît aujourd'hui parce que on s'oriente vers une nouvelle spécialité médicale qui serait la psycho-neuro-immuno-endocrinologie qui exprime bien cette non-séparation entre le corps et l'esprit où ils s'influencent l'un l'autre et les patients, lorsqu'ils sont confrontés à des maladies, par exemple, ou à des maladies chroniques, des maladies graves, sont à gérer ces situations de stress, apprendre qu'on a une maladie grave, comment pouvoir être dans une relation de confiance avec le médecin, comment on peut solliciter peut-être l'effet placebo d'une façon positive et pas juste comme un instrument de mesure dans les études. Tout ce champ-là s'ouvre aujourd'hui dans les explorations scientifiques.
Mathieu Ricard.
Oui, notre ami qui a fait ce documentaire faisait allusion à, c'est pas seulement dans le cerveau, au niveau même des cellules. Il a mentionné l'épigénétique, c'est-à-dire l'expression des gènes. Vous avez un héritage génétique, mais si les gènes ne sont pas exprimés, ils sont absents. Donc on a pu montrer que notre 8 heures de méditation dans une journée, c'est quand même très intense, mais malgré tout, ça enclenchait l'expression, ça augmentait de jusqu'à 30% l'expression de certains gènes qui sont liés au stress, donc au niveau des cellules.
Benoît Laborde.
Oui, en particulier des gènes qui sont responsables de l'inflammation. Et on sait que certains de ces gènes sont les mêmes qui sont ciblés par des médicaments. Donc il y a à nouveau cette question du rapport entre méditation et médicaments. Il y a un certain nombre de gènes et d'effets cellulaires aussi sur le vieillissement, par exemple, qui deviennent aujourd'hui très étudiés.
Alors, une méta-analyse publiée cette année par des universitaires britanniques, néerlandais et belges montre qu'un bouleversement de la biologie cellulaire et même de l'expression des gènes, comme vous le disiez, apparaît quand on pratique très régulièrement la méditation, le yoga ou encore le qigong. Les scientifiques ont analysé 18 études menées entre 2005 et 2016 sur 846 sujets ayant pratiqué ou non ces disciplines psychocorporelles. Et les auteurs de l'étude affirment que les techniques corps-esprit laissent une signature moléculaire.
Oui. Il y a une autre chose que je voulais signaler à propos du vieillissement, c'est qu'il y a un grand projet européen qui s'appelle Silver Santé, qui est fait justement à l'INSERM de Lyon, à Caen et ailleurs, qui va étudier chez les personnes âgées l'effet sur l'Alzheimer du mode de vie, mais aussi de la méditation. Et une étude pilote, qui a permis d'ailleurs de décrocher une bonne subvention de la Commission européenne, a montré que le cerveau de 10 méditants à long terme était structurellement et métaboliquement plus jeune d'environ 5 années. Donc si ces études se confirment, c'est quand même assez phénoménal.
Christophe André, vous êtes d'accord avec l'expression du neurologue Rick Hanson qui dit « tout ce qui traverse l'esprit sculpte le cerveau ».
Bien sûr, bien sûr. Toutes ces études ont pour objectif finalement de rappeler qu'il y a des styles de vie, des manières de vivre qui sont plus bénéfiques pour notre santé que d'autres. Alors ça ne peut pas garantir qu'on ne tombera jamais malade, mais ce qui est clair, c'est que marcher régulièrement, faire de l'exercice physique régulièrement, a un impact biologique, pas seulement sur nos muscles, aussi sur notre immunité, sur notre cerveau, nos émotions, sur l'expression de nos gènes. Méditer régulièrement a un impact sur notre bien-être, mais aussi à un niveau moléculaire. Donc tout ça, ce sont des enjeux très importants en médecine. On va passer à une façon de faire de la médecine beaucoup plus riche, beaucoup plus vaste que simplement le fait d'attendre de tomber malade et de prendre alors un médicament.
Docteur Jean-Gérard Bloch.
Oui, c'est ce qu'évoque Christophe. C'est une médecine plus participative dans laquelle le patient peut être amené à être un acteur de sa propre santé. Je voudrais rebondir sur une partie de ce documentaire qui parle de la biologie du gène, parce que c'est vraiment très impressionnant de voir que quelques 2 mois de pratique méditative justement avec ce programme MBSR peut transformer au niveau des télomères, donc l'extrémité de nos gènes, une composante qui détermine parmi d'autres notre vieillissement cellulaire et notre espérance de vie. Et
On a pu montrer que 3 mois de méditation, en stage de méditation, pouvaient rallonger les télomères. Et le raccourcissement de ces télomères, c'est un fil d'ADN à simple brin, qui est au bout du chromosome, et qui normalement indique le vieillissement, parce qu'il se raccourcit à chaque division cellulaire. Or là, il a été augmenté. Donc le télomère est protégé par la méditation. Entre autres, on sait que le stress aussi va raccourcir ces télomères.
Benoît Laborde, il faut tout de même raison garder. La méditation nous ouvre les portes d'une pharmacopée intérieure, mais il y a encore beaucoup de travail pour évaluer son efficacité sur certaines pathologies.
Mais oui, il y a encore beaucoup de travail, heureusement, parce qu'on a plutôt l'impression d'être au tout début d'une grande histoire entre la science et la méditation, mais qui ne fait que commencer. On est loin d'avoir réuni toutes les preuves nécessaires et suffisantes. On est loin d'avoir des études qui ont les mêmes portée que sur le médicament, par exemple. C'est très difficile de prouver quelque chose de l'efficacité de la méditation. Donc tout ça avance, c'est en marche, mais il y a encore beaucoup de travail pour les années qui viennent et pour les générations de chercheurs à venir.
Dans quel cas la méditation de pleine conscience est-elle contre-indiquée ? Je connais des gens autour de moi qui me disent « ça m'angoisse, ça m'énerve ».
Contre-indiqué, je ne sais pas si on peut dire ça. En tout cas, il y a des personnes pour lesquelles elle est inadaptée. Il y a des gens qui ont beaucoup de mal, effectivement, à s'asseoir, à fermer les yeux. Alors parfois, il leur vaut mieux emprunter d'autres chemins. Le yoga, le tai chi, des méditations en mouvement. Parfois, se tourner carrément vers le sport. Mais au fond, on pensait à un moment donné que les personnes très fragiles, délirantes, schizophrènes, ne pouvaient pas méditer. Elles peuvent, une fois qu'elles sont stabilisées, une fois qu'elles ne sont plus dans cette agitation de l'esprit qui signe leur maladie.
Merci à tous d'être venus. Merci Mathieu Ricard. Je signale la sortie d'un album de photos aux éditions de La Martinière, Un demi-siècle dans l'Himalaya. Merci Jean-Gérard Bloch d'être venu de Strasbourg. Benoît Laborde, votre documentaire Les étonnantes vertus de la méditation est diffusé samedi soir sur Arte. Je recommande également La méditation, une nouvelle thérapie, en coédition chez Belin et Arte Édition. Benoît Laborde, donc samedi, hein,
22h35.
Voilà. Et merci Christophe André. Je rappelle que l'on se retrouvera le 16 octobre à la Maison de la Radio et dans une cinquantaine de cinémas en France pour une grande conférence consacrée aux bienfaits de la bienveillance. Billetterie ouverte sur le site maisondelaradio.fr et renseignements sur notre page Facebook. À suivre, l'intervention de Marie-Laure Zonshine de Femme Actuelle.
Tout est blanc, tout givré, innocent, tout figé. C'est l'hiver en été. Tout est blanc, défoncé, aveuglant, déchiré. C'est l'hiver en été.
Etienne Dao, les flocons de l'été. Marie-Laure Zonshine.
Oui, Ali.
Chef des actualités à Femme Actuelle. Alors, cette semaine, vous vous demandez si les papas solo sont des mères comme les autres.
Eh oui, alors qu'est-ce que sont ces papas solo ? Eh bien, ce sont des hommes qui ont généralement choisi, certains le subissent, on pense au veuvage bien évidemment, ils ont choisi d'élever leurs enfants après une séparation, la décision d'un juge. Ce sont eux qui s'occupent à temps plein des enfants, donc en accord avec leur ex-conjointe. On en compte aujourd'hui en France 240 000, à comparer quand même aux 1,8 million de familles monoparentales qui, dans 85% des cas, eh bien, sont tenues par des femmes seules avec des enfants. Donc les hommes seuls avec enfants sont quand même beaucoup plus rares. Et donc ces hommes font ce choix donc d'être ce qu'on appelle des papas solos.
Des papas poules.
Alors, évidemment, on pense à eux, bien évidemment, ce sont ces nouveaux pères qui veulent se démarquer des leurs. Ça, c'est très clairement montré par les études. Ils veulent donner une éducation différente, être plus à l'écoute, plus présent, plus affectif, plus tactile aussi, plus impliqué. Et puis alors, messieurs autour de la table, beaucoup d'entre eux prennent d'ailleurs leur propre mère pour exemple, bien sûr. Voilà, à méditer, ça encore une fois, hein, bien évidemment. Alors au quotidien, ça donne quoi? Vous allez voir, c'est absolument dingue. Les femmes qui écoutent vont évidemment bien rigoler. C'est la même chose que les femmes, bien sûr. C'est quoi? C'est les devoirs, c'est le ménage, c'est les loisirs, c'est les repas, les goûters d'anniversaire, la visite chez le dentiste, la rencontre avec les professeurs, bref, la double journée que vivent toutes les femmes.
La charge mentale des femmes.
La fameuse charge mentale. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que ces hommes, eh bien, sont vus comme des héros par leur entourage. Oh là là, c'est dingue, tu te rends compte, il élève seul ses enfants. Voilà. Et alors, on a un des témoins qui le dit. Il dit, mais alors, ce qui est quand même dingue, c'est qu'on ne dit jamais d'une femme qui élève seule ses quatre enfants que c'est une héroïne. Eh ben, un homme, oui. Bon. Pourquoi pas, à voir. Alors en tout cas, là où ça coince plus, c'est dans le milieu professionnel. Parce qu'effectivement, on peut considérer que rien n'est prévu, ou l'accompagnement de ces hommes seuls n'est pas aujourd'hui très au point. 4% des hommes seulement prennent un congé parental, 8% d'entre eux seulement sont à temps partiel, et beaucoup à vous craindre des répercussions sur leur salaire et leur évolution de carrière. Mais là encore, des femmes comme les autres, des mères comme les autres, finalement, rien de neuf sous le soleil, ils vivent la même chose que ces femmes, je le rappelais, 1,8 million hein, quand même de femmes dans ce cas-là.
Un papier à lire cette semaine dans Le Femme Actuelle. Merci beaucoup Marie-Laure Zonshine. Demain, on évoque quelques méthodes afin que les enfants apprennent mieux à la maison et à l'école. 01 45 24 7000, grand bien vous fasse à radiofrance.com. À la technique ce matin, Michel Bézikian et Pierre-Yves de Rolin. La programmation musicale était assurée par Muriel Pérez. À suivre, Nagui et sa bande originale.